With TV, you can't even think of something different. With movie, you can.
Sento dentro di me una strana agitazione.
Un'illusione.
En direct et en public depuis le théâtre de la Criée pour cette 19e édition du FID Marseille, Festival international du documentaire. Aujourd'hui et chaque jour jusqu'au 7 juillet, la Grenouille vous rencontre l'actualité du FID. Vous n'avez pu y échapper, ces dernières semaines, ces derniers mois et l'été qui vient sont remplis de réminiscences des années 60 et 70, de commémorations autour de mai 68, un déluge de baba pour Bobo. Un label vintage sur les objets souvenirs d'une semi-révolution qui les intègre dans un patrimoine et les renvoie au musée, ou bien peut-être chez le notaire de l'Élysée qui piaffe à l'idée d'en liquider l'héritage. Summer of Love et Naphtaline, l'amour en héritage, non, décidément. Ici, au FID, on préfère les films de création aux telenovelas. Aussi, plutôt qu'une ressucée, c'est un regard très actuel sur l'amour que je vous convie ce soir avec nos deux invités. Raya Martin, réalisateur de Possible Lovers, un film présenté en première européenne et inscrit en compétition internationale. Et puis Miguel Gomez avec ce cher mois d'août, lui aussi en compétition internationale. Au cours de ce magazine, on aura aussi des chroniques par Juliette, Christina, Jean-Marc et Célia. Et puis un interview enregistré cet après-midi avec Marc Scialom, auteur de « Lettres à la prison », un film qui date de 1970 et qui vient d'être restauré. Raya Martin, réalisateur philippin, n'est pas un inconnu du public du FID. On se souvient d'El Indio Nacional, réalisé en 2006. Premier épisode d'une trilogie où apparaît en filigrane l'histoire des Philippines, son pays. On se souvient aussi d'Auto Historia, réalisé en 2007 et qui avait d'ailleurs ici au FID été primé. Premier élément d'une trilogie, disons, autobiographique, poursuivie avec Possible Lovers qui est présenté cette année. Enfin, on rappelle que Raya Martin a présenté cette année à Cannes, il y a quelques semaines, Now Showing, épisode là aussi d'une trilogie intitulée Box Office. Raya Martin, bonjour. Hello Raya.
Hello.
La forme de trilogie est décidément récurrente et presque systématique aujourd'hui dans votre travail. Pourquoi cette forme de trilogie ? Pourquoi ce choix ?
It's actually interesting when people talk about my films in sets of trilogies. Originally, I had not imagined them to be trilogies, but I have worked with this filmmaker, Filipino filmmaker from the 70s, who is quite radical and organic, and I have this idea that filmmaking has this natural journey or voyage, and that instead of the director taking the material to somewhere else, I think that the film or the material takes the director someplace else.
C'est drôle pour moi quand les gens parlent de mon travail en termes de trilogie, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout mon intention. J'ai travaillé beaucoup avec un réalisateur philippino qui est radical et organique. Et à travers mon travail avec lui et mes propres idées, j'avais envie de faire ces voyages. La réalisation des films, pour moi, c'est de faire des voyages. Et c'est plutôt le matériel. C'est pas le matériel et les réalisateurs qui font le film, c'est un peu l'inverse.
Qui était ce réalisateur avec qui vous avez travaillé?
Yes, we had not made the film together, but I had worked under him as an intern in a not non-traditional way. His name is Kidlat Tahimik. He was quite famous in the 70s as a Filipino filmmaker representing third cinema. And a lot of people now talk about him through that reference.
C'est Kidlat Tahimik, un réalisateur avec lequel j'ai travaillé comme stagiaire. Et on a travaillé d'une façon très loin de la tradition. Et il est reconnu dans l'Occident comme réalisateur filipino du troisième cinéma. Et c'est en ces termes-là que les gens ont fait connaissance de lui. Donc Kidlat Tahimik.
Ce film Possible Lovers a été présenté, je crois, en avant-première à Buenos Aires. Comment a-t-il été accueilli?
It's unfortunate that I wasn't able to come to Buenos Aires to present the film. I had canceled at the last minute to finish another film, but from what I heard, people who got the idea that it was a sequel to Auto Historia, and people who had liked Auto Historia understood what Possible Lovers meant, and it was following a kind of tradition. And so once you understand this kind of form or aesthetics, then naturally what you think about is the something else, a feeling or an emotion that that the film wants to share.
Malheureusement, je n'ai pas pu présenter mon film au Buenos Aires. J'ai dû annuler aux dernières minutes parce que j'ai fini un autre projet. Mais c'était bien accueilli par ceux qui ont aimé Auto Historia, comme c'était la suite de ce film-là. Une fois qu'on a compris ce genre d'approche esthétique, cette nouvelle tradition et les émotions qui peuvent être provoquées par ce genre de film, on aimerait forcément la suite.
Parlons un peu de ces possible lovers, ces amants possibles. Deux amants au bien sage, hein, endormis sur un canapé, un plan séquence, point. Difficile de ne pas penser à Andy Warhol filmant Joe D'Alessandro. C'était pour vous une référence?
I've only seen quite a few, just a handful of films from Andy Warhol. Of course, I know how his aesthetics work, and I think in the same spirit as Auto Historia being an automatic process, it shares a kind of spirit with him. But I still believe that in a way it's quite different because the films that I make are more Filipino, whereas Warhol shares a kind of his own, I don't know, American kind of feeling.
J'ai vu seulement quelques films d'Andy Warhol, bien que je suis au courant de son façon de réaliser les films, son esthétique, et la façon dans laquelle ces films se déroulent d'une façon automatique est un sentiment que je partage. Je trouve que les films partent de ce même genre d'esprit. Pourtant, pour moi, mes films sont plutôt philippines et cette identité est loin de celui d'Andy Warhol qui est plutôt américain. Il a une autre tradition.
On a pu voir hier projeté ici au FID le film de Manon Debord autour de 4:33. Pièce silencieuse de John Cage. Tout comme le silence de John Cage est habité par une myriade de micro-bruits, Possible Lovers est habité par une myriade de micro-mouvements. Et est-ce que c'est la même démarche? Amener le spectateur à être attentif aux détails, aux choses très subtiles?
Too very familiar with his works. I've only heard a couple of pieces. But initially with the film, the approach to sound was very crucial and had been not too very specific, but I knew exactly what I wanted to share with the creation of the sound and the influence of the sound for the film, and to what direction the sound will take the viewers.
Je ne suis pas très familier avec le travail de John Cage, mais avec Possible Lovers, le son pour moi était clé. Je savais exactement ce que je voulais partager avec le public et comment j'allais créer et ce bon son donc, et l'influence que ça pourrait avoir à travers le public, où je voulais l'emmener à travers le son.
Là, en l'occurrence, c'était plutôt sur le mouvement que je posais une question à Raya. Un film qui est apparemment immobile, mais en fait... peuplé d'une infinité de tout petits mouvements, de clignements d'yeux. C'est plutôt à ces détails-là que je pensais.
Well, I had the basic idea about how the characters would be interacting. And other than that, they are quite free to interpret it. Yeah, I mean, it's when making films, it's quite a collaboration with the actors. I'm not exactly sure about this idea of in visual arts or in performance arts. There's a the idea of a resistance. Piece or where one tries to adhere to a kind of a static a quiet resistance to movement, but it's...
En fait, les caractères ils étaient libre à faire leur propre interprétation. Mon réalisation, je le conçois plutôt comme une collaboration avec eux. Ce n'était pas du tout conçu comme une pièce de résistance, une performance où on est censé adhérer strictement à une approche statique. Ce n'était pas mon but.
Le son, maintenant parlons du son, de la bande-son de votre film. On y entend des bruits de marche, des coups de feu lointains. Dans cette immobilité, dans cette nuit partagée, c'est tout le mouvement et la fureur du monde qui apparaissent au travers du son.
Well, as in the first Auto Historia film, the idea was also to time travel, but the scenario was quite different. I think one of the main ideas was when one is in the middle of a very intense feeling or emotion, he sees the world through a very particular perspective. You could see very, very minute details. You could travel through time. You could experience the world backwards, forwards, anything is possible.
Comme auto-historia, je voulais représenter un voyage dans le temps, si vous voulez. C'est bien un scénario très différent, mais je voulais montrer que quand on est en train de vivre des émotions très intenses, très fortes, on a une perspective qui est très particulière et très différente, tous les détails peuvent prendre l'ampleur, on peut voir le monde à l'envers, à l'endroit, tout est possible.
Dans ce film Possible Lovers, comme dans beaucoup d'autres films de Raya Martin, l'histoire est toujours présente et elle est aussi avec Long Silent Emotion, un film, je crois, le tout premier film philippin qui a été réalisé, je crois, en 1919. Je voudrais conclure, Raya, ce petit entretien en te posant la question pour toi. Aimer, c'est traverser ensemble la nuit.
Also, following the idea of auto-historia, it's quite autobiographical. I mean, what you see is what you get, a filmmaker and an editor, and that's it. But with the experience and with the audience, I mean, it could take you to somewhere else. It could lead you to remember your own experiences. You could take it to a metaphorical level. I mean, the interaction between the American and the Filipino occupation and cinema and the filmmaker and different kinds of relationships. So, yeah.
Comme une suite à Auto-Historia, c'est biographique. Et en gros, ce que vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce film qui permet et de partager une expérience avec un public aussi permet des résonances dans ses propres mémoires. Vous pouvez amener ça à une étape métaphorique par rapport à l'occupation américaine des Philippines, comme ça peut poser des questions sur le cinéma et sur l'existence.
Merci beaucoup, Raya Martin, et merci aussi à Eve qui a assuré la traduction de cette interview. On va maintenant écouter une première chronique par Christina. Christina, tu vas nous parler, je crois, de Tambo Grande de Ernesto Cabello et Stéphanie Boyd.
Oui, merci, c'est ça. Imaginez-vous qu'une compagnie minière, disons du Pérou, découvre de l'or au sous-sol de Marseille et pousse tous les habitants à déménager. Quelque chose de pareil est arrivé aux habitants de Tambo Grande, au nord du Pérou, dont parle le deuxième film d'Ernesto Cabello et de Stéphanie Boyd. Un jour, ils apprenaient qu'au-dessous de leur maison coulait de l'or pur. Sans consulter la communauté, le gouvernement d'Alberto Fujimori donnait la concession à une compagnie minière canadienne pour qu'ils construisent une mine et exploitent les ressources brillantes. Les mineurs promettaient la modernisation et la prospérité du pays. Puis ils demandaient à Stéphanie Boyd, justement, réalisatrice compatriote qui était sur place, de faire un vidéo promotionnel et de jeter une lumière positive sur ce projet. Mais Boyd, bien sûr, n'en voulait rien savoir parce qu'elle découvrait une toute autre réalité. Car les villageois de Tambo Grande ne profiteraient point de cet Eldorado imaginaire. Au contraire, une mine serait l'enfer pour la communauté agricole. Les conséquences d'un tel projet sont visibles partout en Amérique latine, ceux des anciens sites minières, par exemple la destruction du village, la perte du travail et des traditions agricoles, ainsi que des graves conséquences écologiques, la désertification et la toxication de la région. Alors, avec le réalisateur péruvien Ernesto Cabello, cette réalisatrice canadienne a fait tout autre film. Tambo Grande, Monk, Meurtre, Mine. C'est l'histoire d'Astérix contre les Romains, de David contre Goliath. Dans le petit village, il se forme un mouvement de résistance surprenant. Les agronomes de Tambo Grande savent que leur seule richesse, leur or, ce sont les citrons et les mangues. Le paradis fertile qu'ils habitent, c'est l'héritage de leurs parents qui l'ont créé au milieu du désert. L'amour de leur terre est d'autant plus grand. On voit des agronomes embrasser leurs bûchers et arbres, caresser les mangues et protester avec les citrons dans la main. Cabello et Boyd ont suivi l'évolution de ce village face à leur destruction pendant 8 ans. Ils observent comment les villageois résistent à leur tentative de violence quand leur leader est assassiné et transforment leur colère en une mobilisation pacifique, efficace et culturelle qui atteint à la fin un rayonnement mondial. Les réalisateurs savent capturer la douleur des villageois ainsi que leur optimisme et leur humeur. Il y a par exemple une scène où les villageois collectent de l'argent pour payer aux mineurs leur vol de retour au Canada. Ainsi, le film célèbre la vie et le courage des petits gens qui, face à la crise, se transforment en héros. Malgré la sympathie des réalisateurs avec le mouvement de Tambo Grande, ils ne tombent pas dans la piège d'une prise de position unilatérale, mais basent leur film dans de recherches intenses et d'interviews diverses. Quand ils rentrent dans le bureau de Manhattan Mineral au Toronto, cela respire bien l'esprit engagé de Michael Moore. Mais à la différence de celui-ci, Boyd et Cabello ne plongent pas dans la polémique. ils essayent toujours de montrer les deux côtés du médaille d'or, les mineurs et les opposants, le Pérou et le Canada. Le film de Stéphanie Boyd et Ernesto Cabello combine l'objectivité documentaire à la suspense d'une fiction. Bon, alors, si vous voulez le voir, dépêchez-vous. Il y a une seule projection sur le FIT à Marseille et c'est justement aujourd'hui à 19h30 dans le CRDP. Merci.
Merci à toi, Christina. On va faire une petite coupe musique le temps que Miguel Gomez vienne nous rejoindre sur ce plateau. Miguel Gomez, bonjour. Vous venez au FID avec dans votre besace ce cher mois d'août. C'est, je crois, votre second film après La gueule que tu mérites, qui avait été réalisé en 2004. Après Les amants possibles de Ryan Martin, un amour sinon impossible, du moins contrarié avec votre film. Ce film, c'est un mois d'août en Arganil, une région montagneuse du Portugal. Après le désert hivernal, succèdent des vagues d'estivants, des fêtes, et puis pour animer ces fêtes, des orchestres, toutes sortes de balles, toutes sortes de fêtes, et entre autres une qui s'appelle La Nuit des Couilles. Alors, puisque c'est un plateau un peu autour de l'amour, c'est quoi La Nuit des Couilles ?
C'est un truc qui est raconté dans les films, mais c'est parce que c'est il y a un soir où tous les hommes commencent à boire. Tous les hommes des villages et ils coupent les couilles pour le mouton.
Ouf.
Je crois, je ne l'ai pas vu, mais ils disent que ce sont des couilles de mouton.
La première partie du film est de nature, disons, documentaire. En fait, je crois qu'elle devait constituer la matière, faire apparaître des personnages incarnés, construire une fiction par le réel. C'était ça l'idée?
Quand je tournais cette première partie du film, moi je pensais pas que je faisais un documentaire. Il n'y avait pas des acteurs, bien sûr, mais il y a des codes qui on voit dans les films documentaires, des voix off, des entretiens avec les gens, tout ça. Mais par exemple, je crois que cette partie, c'est pas moins manipulée que la fiction. Pour moi, c'est difficile de parler dans cette distinction documentaire-fiction. C'est un peu, je sais pas si c'est clair comme ça. Je crois que les choses sont un peu plus complexes.
En tout cas, c'est tout à fait dans l'état d'esprit du site du Festival international du documentaire qui s'efforce d'ailleurs dans sa programmation d'abolir ces distinctions, ces distances entre le documentaire et la fiction. Une première partie documentaire, on l'a vu, pour autant, votre regard n'est pas celui d'un anthropologue. Vous vous êtes laissé entraîner, en fait, emporter dans ce tourbillon. Comment ça s'est passé, le tournage ?
C'était un peu les bordels. On faisait partie de ces... des propres fêtes. Je crois que en 7 août, 7 mois d'août, cette année, ils vont nous manquer vraiment. Donc on faisait partie de toutes ces fêtes. Et c'était un peu. Cette région, c'est un peu notre Far West. C'est notre région des cowboys. Il y a des choses qui se passent très bizarres, des gens avec les chapeaux et qui entrent dans les bars et disent, ils font des choses bizarres.
Comme quoi, par exemple?
C'est pas, il y a dans cette village, il y a un pont et qui c'est très très haut et les gens peuvent se jeter de ces ponts pour une bière. C'est vraiment sauvage. Et c'était un peu. Donc, on était là tous les jours pour tourner ces films. Il était, parfois, c'était. Je veux retourner. On pensait qu'il faut retourner à Lisbonne avec la bonne santé et tout ça. Mais la plupart du temps, c'était rigolo.
Une bascule progressive du documentaire à la fiction, on l'a vu, une bascule sans rupture, pour aboutir à un trio, un père, sa fille et un cousin, un joli cousin, et peut-être une petite amourette entre le cousin et cette fille. Une intrigue familiale, c'est au fond un regard aussi très aigu sur la famille, les rapports dans la famille.
J'ai pas compris.
Le film, c'est une histoire. Les personnages principaux, c'est un père, sa fille et puis un cousin. C'est aussi votre film un regard sur les rapports au sein de la famille, parfois un peu tendu, un peu complexe.
Je suis pas sûr si c'est la famille. Je crois que c'est surtout la communauté des gens. C'est peut-être plus abstrait. C'est peut-être les rapports entre les gens. Il y a des rapports filiales, bien sûr, mais ce sont surtout les rapports amoureux que je essaye de travailler dans ces films.
Même dans la fiction, la réalité transparaît. D'ailleurs, dans votre film, les opérateurs du tournage font de discrètes apparitions. L'idée, c'est que vous vouliez tout montrer du film, montrer à la fois l'envers et l'endroit.
Et aussi parce qu'il avait deux tournages, la première sans acteurs et après avec les acteurs, un an après. Et dans ces premiers tournages, qui correspond à la première partie du film, alors à cette partie, disons, plus documentaire, il avait des jours où se passait vraiment rien. Donc, je pensais la solution, c'est qu'on se filme parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, on se filmait.
Cette double nature du film, docu et fiction, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous étiez parti à l'origine pour réaliser un film de fiction. Ce qui a abouti à cette nature hybride, c'est la difficulté à réaliser une fiction. C'était une difficulté d'ordre économique, en fait.
Oui, c'est vrai. C'était on a l'idée initiale, c'était de tourner un film d'une façon plus classique, avec un scénario qui était écrit. Mais on a un mois et demi avant ce tournage, la production m'a dit il n'y a pas d'argent pour faire comme tu veux. Donc on a fait comme ça. J'ai mis à côté les scénarios. J'ai pris 5 personnes pour une caméra 16 mm. On a parti pour cette région pour tourner les choses qui étaient déjà dans les scénarios et essayer de les avoir avant que la fiction même commence. C'était ça l'idée.
Aujourd'hui, il est donc quand même un peu plus facile de réaliser un film documentaire qu'un film de fiction, du point de vue de la production.
Je peux pas te répondre parce que moi j'ai cette idée. Je continue avec cette idée de que j'ai pas fait un film documentaire. Pour moi c'est un mystère profond d'être ici dans les FID.
Un mystère heureux en tout cas, et on vous remercie beaucoup d'avoir été présent ici au FID et en plus sur ce plateau pour Radio Grenouille. Merci beaucoup Miguel Gomez. On rappelle que votre film va être proposé, ce cher mois d'août, va être proposé demain, vendredi 4 juillet à 19h, ici à La Criée. Et tout de suite, on va écouter une seconde chronique. Jean-Marc Lamour est allé voir A Film Far Beyond God de Wael Noureddin. Salut Jean-Marc.
Salut à toutes et à tous. Et effectivement, quelques mots à propos de ce film, A Film Far Beyond God, un film loin au-delà d'un Dieu, nous dit le titre. Et c'est un film qu'on pourrait rattacher à la famille des poèmes visuels, pas étranger du tout aux travaux du collectif Zanzibar, qui sont également présentés dans le cadre de cette 19e édition du FID. A Film Far Beyond the God prend un point de départ autour d'un rappel historique sur les racines polythéistes de l'islam, et puis propose ensuite une digression, une réflexion libérée ou débridée, on pourrait dire, autour de la dépendance religieuse que Wael Noureddin confronte à d'autres formes de dépendance, de besoin, notamment aux drogues. Donc besoin de dogme et de béquille mentale d'un côté, besoin d'abîme et de beauté, soif de chaos irisé. Voici peut-être quelques pistes de lecture pour accueillir un film tourné au Yémen dont on n'apprendra rien, ou si peu. L'image en effet ne représente pas, mais par contre elle traduit un état d'esprit, une géologie, une géographie mentale, une quête intellectuelle et visuelle ou une échappée belle. Sur ce chemin hors piste où Wael Noureddin fait s'entrechoquer des croyances d'hier et celles d'aujourd'hui et nous invite à brûler les icônes, qu'elle soit sainte ou rockstar. A Film Far Beyond the God, c'est donc peut-être à prendre comme un trip au deux sens du terme, le voyage et le trip du LSD, un voyage intérieur et poétique, un film sous dépendance, une forme de cut-up à la Burroughs, ou un film où il faut accepter de se perdre, un petit peu à la façon de Michaud et de ses connaissances par les gouffres. Et la parole clairsemée de Jean-François Aussang ne va pas dans un autre sens et nous y invite également. Alors vous pouvez découvrir ce film Far Beyond the God, samedi 5 juillet à 13h au CRDP, au pied des marches de la gare Saint-Charles.
Merci Jean-Marc, et on va enchaîner avec une autre chronique. Chaque jour dans ce Mac du FID, on accueille une chronique technique réalisée par Juliette. Et ce soir, Juliette nous parle de la lumière.
Putain, c'est sombre là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Aziz, lumière!
La chronique technique du docu.
Michel Dunant, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur de la photographie. Vous avez travaillé sur nombreux documentaires. Donc parlez-nous un petit peu de la lumière dans le documentaire, de la place qu'elle a.
Elle a une place primordiale, forcément, puisque sans lumière, on ne voit rien. Après, quelle importance elle a? Elle a une importance de toute première place, mais en même temps, elle doit rester discrète. C'est-à-dire que le spectateur, il perçoit pas directement ce qui se passe à la lumière. Si la lumière, par exemple, est fausse, ben le spectateur va s'en apercevoir. Tandis que si elle est juste, il va même pas y penser. C'est un peu en creux, comme ça, qu'on peut définir l'importance de la lumière dans un film. Documentaire en particulier, puisque l'action de la lumière, ce que la lumière apporte au film, ça va se jouer plus en filigrane dans l'inconscient, entre guillemets, dans une deuxième zone, en tout cas, de la perception du spectateur.
Donc vous, votre travail, oui, c'est principalement du documentaire sans la mise en scène, et qui permet d'exploiter la lumière naturelle le plus possible.
Dans le documentaire, on va maîtriser une partie de la lumière, parce qu'il y a des choses qui vont être dérangeantes si on ne les maîtrise pas. Mais par contre, on va quand même la laisser vivre. On va laisser vivre la lumière naturelle parce que c'est dans notre culture documentaire de filmer la vie et pas de tout mettre en scène. La plupart des documentaires, la plupart, c'est une sorte de milieu entre les deux. C'est-à-dire ni on tourne complètement en live avec la lumière qui existe, tout ça, ni on construit complètement. C'est toujours un entre-deux où, comme je disais, on maîtrise une partie et on laisse vivre une autre. C'est aussi beaucoup pour des questions de budget. En documentaire, on a des petits budgets et on ne peut pas se permettre des temps d'installation énormes avec des listes de matériel énormes non plus.
Qu'il faut utiliser la lumière naturelle pour que ça paraisse vrai et non pas fictionnel. Dans quel cas, quand même, utiliser un matériel lumière? Pourquoi et quels exemples à nous donner?
On peut faire avec des moyens artificiels, avec des projecteurs et tout ça. On peut faire une lumière qui a l'air plus vraie que nature et faire comme si c'était de la lumière naturelle. Le problème, c'est souvent le budget. Et puis, il faut que ceci ne trouble pas ce qu'on va filmer. Donc voilà, les cas où on va pouvoir mettre en œuvre un gros travail de lumière avec des projecteurs et du personnel et tout ça, c'est dans les cas où on a d'abord du budget et où la scène qu'on va filmer va pas être gênée par ces moyens mis en œuvre. Bon, pour finir, on peut quand même remarquer la vacuité ou la vanité de notre question de la lumière dans le documentaire, parce que de même qu'on a vraiment du mal à définir ou à dessiner une frontière entre le documentaire et la fiction, on n'est pas capable, même les scientifiques les plus pointus, de déterminer la vraie nature de la lumière, puisque selon comment on l'observe, elle est tantôt une nature corpusculaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des particules, des photons, et selon ce qu'on observe comme phénomène, on a l'impression au contraire que c'est une onde. Donc, tout est relatif.
C'était la chronique technique de Juliette. Vous écoutez Radio Grenouille en direct du Festival international du documentaire à La Criée. On va maintenant entendre Marc Scalum, réalisateur de Lettres à la prison. Marc Scalum qui est en ce moment même en train de présenter son film Lettres à la prison dans la grande salle ici de La Criée. Un film qui a été très récemment restauré. J'ai enregistré ce petit entretien cet après-midi même.
Kijk, Marseille. Hoe gebeurt dat? Heb je Frans aan? Kijk, het is even boven.
Marc Scalum, bonjour.
Bonjour.
Mais ici, ça s'appelle Marseille. Votre film Lettres à la prison démarre sur le port autonome de Marseille.
Le 13 août 1970. Mon frère Ahmed. Marseille est là. J'ai oublié tout. Ici, je ne connais pas. Je leur ai blagué. Je leur ai dit, je vais chercher du travail dans le bâtiment à Paris. Sur le bateau, il y en avait qui s'arrêtent ici. Ils sont arrivés. Ils vont tous pour le travail et ils pensent que je suis comme eux.
1970, la France importe à tour de bras sa main-d'œuvre immigrée pour construire ses banlieues. Une année charnière entre les années coloniales et puis celles qui suivent. On voit monter la peur, le racisme. De 1970 à 73, à Marseille, c'était une période de bascule, vous l'avez ressenti?
Je l'ai ressenti, j'habitais Paris à l'époque, je suis venu à Marseille pour tourner le film. Le comédien qui jouait le rôle de Tahar était à Paris, lui aussi, et je me rappelle très bien qu'il vivait dans un foyer Sonacotra et qu'il en avait un peu ras-le-bol, qu'il voulait essayer de trouver un studio à Paris, et qu'il m'avait dit « je cherche », et on me dit toujours qu'il n'y a rien. Je lui ai dit « je vais venir avec toi ». Je suis venu avec lui et je l'ai vu, ce qui se passait. Première agence, deuxième agence, troisième agence, non monsieur, rien du tout. Finalement, je lui ai dit « tu m'attends sur le trottoir, j'y vais moi ». J'y suis allé. Mais certainement, monsieur, nous avons tout ce qu'il vous faut. Je lui dis, tu peux venir. Il est venu et on lui répond, non, monsieur, je regrette. Pourquoi? Et monsieur, vous comprenez, nous ne pouvons pas, les voisins n'ont pas envie d'avoir des Algériens, etc. Voilà. Voilà comment ça se passait. Je suppose que ça n'a pas trop changé.
J'ai fait semblant de tout. Je leur ai dit que tout va bien et je vais te voir aussi. J'ai pensé beaucoup à toi, je n'ai rien dit. Je ne dois pas m'arrêter à Marseille, en France. Je suis très étonné. Et je ne vois pas bien cette ville. Je n'ai jamais parlé de moi dans une lettre encore.
C'est aussi un film sur le déracinement?
Oui, c'est un film sur le déracinement. C'est un film très précisément sur la perte d'identité. Alors quand je dis perte d'identité, ça veut dire non seulement perte d'identité culturelle, mais perte d'identité, plus profondément, personnelle. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus moi, alors je suis quoi? Rien, autre chose que je ne connais pas, Voilà, c'est ça le thème du film. C'est cette espèce d'affolement qui est représentée métaphoriquement par la tête dans la poubelle, le thème de la tête coupée, la pioche qui frappe sur la tête. Il s'agit toujours de la tête. Il a perdu la tête à la guerre, dit-il, de cet homme devenu fou en Tunisie. La tête, c'est le moi. Hein. On perd son moi, on ne sait plus qui on est.
Parlons justement de l'aspect formel de ce film. Vous évoquez cette tête coupée, une forme et un montage très identifiable à cette époque des années 70, une époque où le plus grand réalisme pouvait côtoyer dans un même film des moments au contraire très lyriques, voire même très oniriques. Aujourd'hui, ce sont des formes que l'on contraint à évoluer dans des circuits totalement étanches, totalement distincts. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je le regrette beaucoup et je suis resté très amoureux de cette forme de l'époque. À cette époque-là, j'étais extrêmement frappé par le film À bout de souffle de Godard, où on trouve les deux thématiques et où elles se conjoignent à travers un découpage et un montage discontinu. Je suis très sensible à cette discontinuité. Au point précis où deux plans s'entrechoquent, où on passe d'un plan à un autre, c'est là qu'est l'énergie d'un film. On a tendance aujourd'hui à aller vers le plan séquence, et moi j'ai beaucoup de tendresse pour les films au plan court, où l'énergie passe au moment où on change de plan.
Quel a été le destin de ce film ? D'abord, comment a-t-il été reçu lorsque vous l'avez fait ?
N'a pas été reçu du tout. J'avais donc écrit un scénario que j'avais été proposé à un certain nombre de producteurs qui m'ont tous répondu c'est pas du cinéma, c'est pas un film. J'avais proposé scénario deux fois de suite au CNC, même type de réponse. Finalement, je m'étais dit je vais le tourner quand même avec mes propres deniers, j'en avais pratiquement pas, ce qui fait que le film, si je vous disais combien il a coûté, c'est ridicule quoi. J'avais pas d'argent. Et ça se ressent, hein. Je veux dire que à chaque instant dans le film, on sent que c'est un film pauvre, pauvre en moyen. Bon, une fois que je l'ai terminé, je m'étais dit bon, tel qu'il est, le film, je vais le considérer comme une maquette, parce que je ne crois pas qu'il puisse intéresser les gens tel quel. Je l'ai donc reproposé en tant que maquette à des producteurs qui m'ont tous répondu à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? On me disait qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Ce qui fait que j'ai fini par le ranger dans un placard. Et que le film a dormi, après que je l'ai monté, n'est-ce pas ? Il était quand même monté. Il a dormi dans un placard chez moi pendant plus de 35 ans. Et il a été très mal conservé. Humidité, chaleur, ça s'est abîmé. Le négatif a disparu, je ne sais par quelle opération du Saint-Esprit, on n'a jamais retrouvé le négatif. Et il n'est resté donc qu'une copie de travail très abîmée, qui est celle que vous avez vue, copie de travail sur laquelle... on a essayé tout récemment une restauration. Cette restauration a été très difficile. Elle n'est même pas tout à fait achevée. J'ai pris connaissance de la copie restaurée qui va être projetée tout à l'heure dans le cadre du FID, mardi dernier. Et j'ai vu que sur cette copie restaurée, il y avait encore un grand nombre de plans trop sombres, il y a un grand nombre de rayures qui peuvent être gommées, les plans sombres peuvent être étalonnés. On peut arriver à quelque chose de meilleur, mais ça n'est pas encore le cas. Alors ce que je voudrais dire ici, c'est que l'état dans lequel il est, ce film, je veux dire les cicatrices qu'il porte, sont un petit peu la conséquence de ce refus dont il a été l'objet au départ. Et que ceux qui ont refusé le film, d'une certaine manière, portent la responsabilité de l'état dans lequel se trouve le film aujourd'hui. Et je voudrais dire que moi j'ai le sentiment que l'histoire se répète, parce que je suis en train de réaliser un film en ce moment, et que ce film, on vient de me dire, quand je l'ai proposé à des producteurs, à des institutions, ça n'est pas du cinéma, ça n'est pas un film, que je suis en train de le réaliser avec mes propres deniers, que je n'ai plus d'argent, que le film est arrêté, qu'il risque de ne jamais exister ou de connaître le sort qu'a connu le précédent il y a une quarantaine d'années. Alors dans 40 ans, moi, je ne serai pas un squelette, je serai de la poussière. Et je ne peux plus me permettre d'attendre. C'est tout nouveau, le fait que le FID s'intéresse, je suis très reconnaissant à Jean-Pierre Rem, que je ne connais pas encore, je vais faire sa connaissance tout à l'heure, de la sincérité de l'émotion qu'il m'a exprimée au téléphone et par un email. Mais ce sont des choses toutes neuves pour moi.
Qui a été à l'initiative de cette restauration de Lettres à la prison ?
Jean-François Néplaz, du Polygone, qui est l'ami. Et surtout, avant lui, ma fille, Chloé, qui m'a dissuadé de le jeter à la poubelle parce que je déménageais de Saint-Étienne à Avignon, où j'habite maintenant. Elle m'a aidé dans le ménagement. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait de ces boîtes qui sont là depuis des dizaines d'années? Je lui ai dit, je les flanque à la poubelle. Elle me dit non. Et elle les a prises et elle les a montrées au polygone. Et c'est là que tout a démarré. Donc, ma fille d'abord, Jean-François Néplaz après. Et le polygone.
Ce film est un documentaire en même temps qu'un film de fiction. On pourrait même dire aussi que c'est un peu quelque part un polar puisqu'il y a une intrigue, un meurtre.
Tout à fait, tout à fait. Je suis resté d'ailleurs attaché à cet alliage de documentaire et de fiction dans le film que je fais en ce moment.
Le film se conclut par une phrase « Ne viens pas me voir tant que tu es innocent ». Cette phrase, finalement, on pourrait aujourd'hui encore l'adresser à tous les spectateurs qui vont venir voir votre film.
Je ne sais pas, mais en tout cas, cette phrase, comme je le disais récemment à quelqu'un d'autre, cette phrase fait écho à une autre phrase qu'on entend vers le milieu du film. Tar, écrivant sa lettre imaginaire à son frère, lui dit « J'ai peur de venir te voir ». Et de connaître une chose que tu connais. Et le frère lui répond ensuite, ne viens pas me voir tant que tu es innocent. Il me semble que ces deux phrases se répondent et que ce qu'il ne connaît pas, ce que Tahar ne connaît pas, et ce pourquoi donc il est innocent, c'est sans doute cette culpabilité artificielle que l'on flanque à la figure des immigrés, notamment d'Afrique du Nord en France, et qui a conduit son frère, évidemment, à être accusé, etc. Et c'est aussi, dans un autre registre, une dimension qui échappe à Tahar, le personnage du film, une dimension de cette souffrance qu'il éprouve, qui est la dimension politique. Tahar n'en a pas conscience. Tahar vit les choses dans le psychologique et dans l'onirique. Mais la dimension politique, il ne la ressent pas. Son frère, lui, certainement la ressent. J'étais le coupable idéal, lui dit son frère. Et ça a une signification politique. Son frère lui dit, ne viens pas me voir tant que tu es innocent. Autrement dit, ne viens pas me voir tant que tu n'as pas compris que c'est pour des raisons politiques que l'on nous traite comme on nous traite.
C'est pour des raisons politiques que vous aviez fait ce film?
Certainement, oui. Et aussi poétique. Je pense que les deux choses sont liées.
Vous écoutiez Marc Scialom, réalisateur de Lettres à la prison, qui est projeté en ce moment même à la Criée dans le cadre du FID. Il sera projeté de nouveau demain à 14h15, cette fois-ci aux Variétés. Et maintenant, une chronique proposée par Célia, une double chronique en fait, puisque Célia, tu vas nous parler de Hunters Since the Beginning of Time de Carlos Casas, et puis un autre film, The Den.
Oui, alors ce sont deux films très différents, mais qui parlent tous deux du rapport de l'homme au monde animal, à la nature. Alors tout d'abord, Hunters Since the Beginning of Time, c'est-à-dire chasseurs depuis le début des temps. Donc c'est le dernier volet d'une trilogie réalisée par l'Espagnol Carlos Casas, après Aral en 2004, qui suivait une communauté de pêcheurs en Ouzbékistan, et Solitude at the End of the World, dans la région la plus désertique de la Patagonie, qui date de 2005. Pour ce dernier opus, Carlos Casas part une fois de plus aux confins de la planète sur les traces d'une communauté de chasseurs de baleines installée sur la côte de la mer de Bering. On y entend les jappements et les hurlements des chiens surexcités au départ des traîneaux et le vent qui balaye la banquise. Carlos Casas filme toutes les activités quotidiennes de cette communauté. Comme une survivance d'un autre temps, les journées sont rythmées selon les saisons par la pêche, puis la chasse aux phoques et à la baleine. Ce qui marque, c'est la beauté simple des gestes de tous les jours. Les visages filmés souvent de très près, en gros plan, et puis les paysages magiques, épurés. L'eau sous toutes ses formes, la mer, la glace, les nuages et la neige, encore et toujours. En plongeant dans ce monde à l'horizon infini, c'est un peu comme si on réveillait cette mémoire enfouie des premiers temps de l'homme, « The Beginning of Time ». La nostalgie d'une époque où le règne animal était encore maître, c'est ça que regrette la communauté observée dans le film « The Den », c'est-à-dire la tanière. Alors là, ça n'a plus rien de contemplatif, c'est une plongée dans l'univers très très particulier des furries, quelque part entre Los Angeles et Las Vegas. Furry, ou poilu, s'emploie donc pour une personne qui aime se travestir en animal et qui s'est créé un personnage ou fursonnage d'apparence hybride, mi-humain, mi-animal. Dans cette communauté, on trouve de tout, des belettes, des tigres, des renards, dans tous les cas, c'est du velu. Par exemple, Marcus est un chat qui porte toujours sur lui ses oreilles et sa queue. Un fantasme extrêmement fécond dans les bandes dessinées et les livres de fantasy et science-fiction, par exemple. Mais c'est Marc Merlino, le fondateur de la première convention furry au monde, qui le dit. Reste le problème que nous ne sommes que des humains. Alors, une bande de dingues obsédés sexuels ou des passionnés à l'imagination débridée, le simple curieux invité à une soirée furry dans le film a du mal à trancher. On apprend que tout ce petit monde flirte aussi de près avec la vie virtuelle de Second Life, tout comme les réalisateurs Alain Della Negra et Kaori Kinoshita, qui tiennent un blog intitulé Avatar, centré sur ce monde virtuel. Donc pour voir ces films, Hunters Since the Beginning of Time passera samedi à 20h et dimanche à 10h30 à La Criée. Et pour The Den, alors attention, c'est un cours, il dure 35 minutes, et les prochaines séances sont vendredi à 15h30 au CRDP, et samedi 11h, dimanche 20h à La Criée.
Merci Célia, avec ces furries, on conclut avec humour ce plateau qui était aux couleurs de l'amour. Merci à tous ceux qui y ont participé, c'est la fin de ce mag du feed en direct de La Criée. Exceptionnellement ce soir, pas de documentaire sonore, mais vous pouvez venir prendre le frais sur le Vieux-Port. L'espace éphémère vous y attend avec ce soir une programmation très attendue. Hervé Lucien sera là, ainsi que Pilouski. Pilouski, c'était la coupe musicale que vous avez entendue tout à l'heure, et c'est aussi la musique avec laquelle on va conclure ce plateau. Toute la programmation du feed est sur le site www.feedmarseille.org. Les émissions que nous réalisons autour de ce Festival international du documentaire sont sur www.grenouille888.org. Demain à 18h, le mag du feed sera animé par Anouk Batar. Elle y recevra Pedro Pigno et Federico Lobo, ainsi que Mauro Andrizzi et Roé Rosen. Tony était à la technique de ce plateau. Restez à l'écoute sur les 3-8. Tout à l'heure, dans un instant, dans quelques secondes, un mix de Mr. Watt, suivi à 20h de Soul Vibrations, et puis une nuit sous le signe de la lune noire, de 21h jusqu'à 7h du matin. On se quitte avec Pilouski.